Le feuilleton d'Antoine, avec aujourd'hui Pêcheur d'Islande, un roman de Pierre Loti.
Yann rencontra un autre bateau, la reine Berthe. Mais celui-ci ne revint jamais à Paimpol. Étrange, cette fin août n'ayant pourtant pas essuyé de tempête. Gaude, installée chez la grand-mère Mohan, travaillait comme couturière chez les genristes de Paimpol. Elle aimait ses retours de soirée dans la lande où avait vécu Yann. Mais quand il revint à Paimpol, ils se croisèrent tous les deux sur la route et ne purent se dire qu'un bonjour gêné. L'hiver vint peu à peu, s'étendit comme un linceul qu'on laisserait très lentement tomber. Les journées grises passèrent après les journées grises, mais Yann ne reparut plus. Et les deux femmes vivaient bien abandonnées. Avec le froid, leur existence était plus coûteuse et plus dure. Et puis, la vieille Yvonne devenait difficile à soigner. Sa pauvre tête s'en allait. Elle se fâchait maintenant, disait des méchancetés et des injures. Une fois ou deux, par semaine, cela la prenait comme les enfants, à propos de rien. Pauvre vieille. Elle était encore si douce dans ses bons jours clairs que Gaude ne cessait de la respecter ni de la chérir. Avoir toujours été bonne et finir par être mauvaise, étaler à l'heure de la fin tout un fond de malice qui avait dormi durant toute la vie, toute une science de mots grossiers qu'on avait cachés, quelle dérision de l'âme et quel mystère moqueur. Elle commençait à chanter aussi. Ça faisait encore plus de mal à entendre que ses colères. C'était au hasard des choses qui lui revenaient en tête, des orémus de messe ou bien des couplets très vilains qu'elle avait entendus jadis sur le port répétés par des matelots. Il lui arrivait d'entonner les fillettes de Paimpol ou bien, en balançant la tête et en battant la mesure avec son pied, elle prenait « Mon mari vient de partir pour la pêche d'Islande, mon mari vient de partir. Il m'a laissé sans le sou, mais tralala le loup, j'en gagne, j'en gagne. » Chaque fois, cela s'arrêtait tout court, en même temps que ses yeux s'ouvraient bien grands dans le vague en perdant toute expression de vie. Comme ces flammes déjà mourantes qui s'agrandissent subitement pour s'éteindre. Et après, elle baissait la tête, restait longtemps caduque, en laissant pendre la mâchoire d'en bas à la manière des morts. Elle n'était pas bien plus propre non plus, et c'était un autre genre d'épreuve sur lequel Gaude n'avait pas compté. Un jour, il lui arriva de ne plus se souvenir de son petit-fils. « Sylvain, disait-elle à Gaude, en ayant l'air de chercher ce qui pouvait bien être. « Ah, dame, ma bonne, tu comprends? J'en ai eu tant quand j'étais jeune. Des garçons, des filles et des garçons. Qu'à cette heure, ma foi. » Et en disant cela, elle lançait en l'air ses pauvres petites mains ridées avec des gestes d'insouciance presque libertine. Le lendemain, par exemple, elle se souvenait bien de lui. Et en citant mille petites choses qu'il avait faites ou qu'il avait dites toute la journée, et elle pleurait. Oh, ces veillées d'hiver, quand les branchages manquaient pour faire du feu, travailler ayant froid, travailler pour gagner sa vie, coudre, menu, achever avant de dormir les ouvrages apportés chaque soir de Paimpol. La grand-mère Yvonne, assise dans la cheminée, restait tranquille, les pieds contre les dernières braises, les mains ramassées sous son tablier. mais au commencement de la soirée, il fallait toujours tenir des conversations avec elle. « Tu me dis rien, ma bonne fille, pourquoi ça donc ? Dans mon temps à moi, j'en ai pourtant connu de ton âge qui savait causer. Me semble que nous n'aurions pas l'air si tristes là, toutes les deux, si tu voulais parler un peu. » Alors Gaude racontait des nouvelles quelconques qu'elle avait apprises en ville, ou disait les noms des gens qu'elle avait rencontrés en chemin, parlait de choses qui lui étaient bien indifférentes à elle-même, comme du reste tout au monde à présent, puis s'arrêtait au milieu de ses histoires quand elle voyait la pauvre vieille endormie. Rien de vivant, rien de jeune autour d'elle, dont la fraîche jeunesse appelait la jeunesse. Sa beauté allait se consumer, solitaire et stérile. Le vent de la mer, qui avait de partout agité sa lampe, et le bruit des lames s'entendaient là comme dans un navire. En l'écoutant, elle y mêlait le souvenir toujours présent et douloureux de Yann, dont ces choses étaient le domaine, durant les grandes nuits d'épouvante où tout était déchaîné et hurlant dans le noir du dehors, elle songeait avec plus d'angoisse à lui. Et puis seule, toujours seule avec cette grand-mère qui dormait, elle avait peur quelquefois et regardait dans les coins obscurs en pensant aux marins, ses ancêtres, qui avaient vécu dans ces étagères d'armoires, qui avaient péri au large pendant des semblables nuits et dont les âmes pouvaient revenir. Elle ne se sentait pas protégée contre la vie de ses morts par la présence de cette si vieille femme qui était déjà presque des leurs. Tout à coup, elle frémissait de la tête aux pieds en entendant partir du coin de la cheminée un petit filet de voix cassée flûter comme étouffé sous la terre. D'un ton guilleret qui donnait froid dans l'âme, la voix chantait « Pour la pêche d'Islande, mon pays, mon mari vient de partir. Il m'a laissé sans le sou, mais tralalalalou. » Et alors ? Elle subissait ce genre particulier de frayeur que cause la compagnie des folles. La pluie tombait, avec un petit bruit incessant de fontaine. On l'entendait presque sans répit ruisseler dehors sur les murs. Dans le vieux toit de mousse, il y avait des gouttières qui, toujours au même endroit, infatigables, monotones, faisaient le même tintement triste. Elle détrempait par places le sol du logis qui était de roches et de terre battue, avec des graviers et des coquilles. On sentait l'eau partout autour de soi. Elle vous enveloppait de ces masses froides, infinies, une eau tourmentée, fouettante, s'émettant dans l'air, épaississant l'obscurité et isolant encore davantage les unes des autres les chaumières éparses du pays de Ploubalanec. Les soirées de dimanche étaient pour Gaude les plus sinistres, à cause d'une certaine gaieté qu'elle emportait ailleurs. C'étaient des espèces de soirées joyeuses, même dans ces petits hameaux perdus de la côte. Il y avait toujours, ici et là, quelques chaumières fermées, battues par la pluie noire, d'où partaient des chants lourds. Au-dedans des tables alignées pour les buveurs, des marins se séchant à des flambées fumeuses, les vieux se contentant avec de l'eau de vie, les jeunes courtisant des filles tout allant jusqu'à l'ivresse et chantant pour s'étourdir. Et près de la mer, leur tombeau de demain chantait aussi, emplissant la nuit de sa voix immense. Certains dimanches, des bandes de jeunes hommes qui sortaient de ces cabarets-là et où revenaient de Paimpol passaient dans le chemin, près de la porte des Moines. C'étaient ceux qui habitaient à l'extrémité des terres de Port-Séven. Ils y passaient très tard, échappés des bras des filles, insouciants de se mouiller, coutumiers des rafales et des ondées. Gaude tendait l'oreille à leurs chants et à leurs cris, très vite noyés dans le bruit des bourrasques et de la houle, cherchant à démêler la voix de Yann, se sentant trembler ensuite lorsqu'elle imaginait l'avoir reconnue. N'être pas revenu les voir, c'était mal de la part de ce Yann. Et mener une vie joyeuse si près de la mort de Sylvestre, tout cela ne lui ressemblait pas. Non, elle ne comprenait plus décidément, et malgré tout ne pouvait se détacher de lui ni croire qu'il fût sans cœur.
Vous écoutez Le Feuilleton d'Antoine, avec aujourd'hui Pêcheur d'Islande, roman de Pierre Loti.
Le fait est que, depuis son retour, sa vie était bien dissipée. D'abord, il y avait eu la tournée habituelle d'octobre dans le golfe de Gascogne. Et c'est toujours pour ces Islandais une période de plaisir, un moment où ils ont dans leur bourse un peu d'argent à dépenser sans souci. De petites avances pour s'amuser que les capitaines donnent sur les grandes parts de pêche payables seulement en hiver. On était allé comme tous les ans chercher du sel dans les îles. Et lui s'était repris d'amour à Saint-Martin-de-Ré pour certaines filles brunes, sa maîtresse du précédent automne. Ensemble, ils s'étaient promenés au dernier gai soleil dans les vignes rousses toutes remplies du chant des alouettes, tout embaumées par les raisins mûrs, les œillets des sables et les senteurs marines des plages. Ensemble, ils avaient chanté et dansé des rondes à ces veillées de vendange où l'on se grise d'une ivresse amoureuse et légère en buvant le vin doux. Ensuite, la marée ayant poussé jusqu'à Bordeaux, il avait retrouvé dans un grand estaminet tout en dorure la belle chanteuse à la montre et s'était négligemment laissé adorer pendant 8 nouveaux jours. Revenu en Bretagne au mois de novembre, il avait assisté à plusieurs mariages de ses amis comme garçon d'honneur, tout le temps dans ses beaux habits de fête et souvent ivre après minuit sur la fin des bals. Chaque semaine, il lui arrivait quelque aventure nouvelle que les filles s'empressaient de raconter à Gaude en exagérant. 3 ou 4 fois, il avait vu de loin venir en face d'elle sur ce chemin de Ploubalanec, mais toujours à temps pour l'éviter. Lui aussi, du reste, dans ces cas-là, prenait à travers la lande, comme dans une entente muette, il se fuyait maintenant. À Paimpol, il y avait une grosse femme appelée Madame Tressoleur, dans une de ces rues qui mènent au port. Elle tient un cabaret fameux parmi les Islandais où des capitaines et des armateurs viennent enrôler des matelots, faire leur choix parmi les plus forts en buvant avec eux. Autrefois belle, encore galante, avec les pêcheurs, elle a des moustaches à présent, une carrure d'homme et la réplique hardie. Un air de cantinière, sous une grande coiffe blanche de nonin. En elle, un je ne sais quoi de religieux, qui persiste quand même, parce qu'elle est bretonne. Dans sa tête, les noms de tous les marins du pays tiennent comme sur un registre. Elle connaît les bons, les mauvais, sait au plus juste ce qu'ils gagnent et ce qu'ils valent. Un jour de janvier, Gaude, ayant été mandé pour lui faire une robe, vint travailler là, dans une chambre derrière la salle aux buveurs. Chez cette dame Tressoleur, on entre par une porte au massif pilier de granit, qui est en retrait sous le premier étage de la maison, à la mode ancienne. Quand on l'ouvre, il y a presque toujours quelques rafales engouffrées dans la rue qui la poussent, et les arrivants font des entrées brusques comme lancées par une lame de houle. La salle est basse et profonde, passée à la chaux blanche et ornée de cadres dorés où se voient des navires, des abordages, des naufrages. Dans un angle, une vierge en faïence est posée sur une console, entre des bouquets artificiels. Ces vieux murs ont entendu vibrer bien des chants puissants de matelots, ont vu s'épanouir bien des gaietés lourdes et sauvages, depuis les temps reculés de Paimpol, en passant par l'époque agitée des corsaires, jusqu'à ces Islandais de nos jours très peu différents de leurs ancêtres. Eh bien, des existences d'hommes ont été jouées, engagées, là, entre deux ivresses, sur des tables de chêne. Gaude, tout en cousant cette robe, avait l'oreille à une conversation sur les choses d'Islande qui se tenait derrière la cloison entre Madame Tressoleur et leurs deux retraités assis à boire. Ils discutaient, les vieux, au sujet de certains beaux bateaux tout neufs qu'on était en train de gréer dans le port. Jamais elle ne serait parée, cette Léopoldine, à faire la campagne prochaine. « Mais si !» ripostait l'hôtesse. « Bien sûr qu'elle sera parée. Mais puisque je vous le dis, moi, qu'elle a pris équipage hier, tous ceux de l'ancienne Marie de Guermeur, qu'on va vendre pour la démolir, 5 jeunes personnes qui sont venues s'engager là devant moi, à cette table, signée avec ma plume, ainsi. Et de bel homme, je vous jure, Lomec, Tugdual, Caroff, Yvon Duff, le fils Kéréas de Tréguier et le grand Yann Gaos de Port-Séven qui en vaut bien 3. La Léopoldine. Le nom à peine entendu de ce bateau qui allait emporter Yann s'était fixé d'un seul coup dans la mémoire de Gaude comme si on l'eût martelé pour le rendre plus ineffaçable. Le soir, revenu à Ploubalanec, installé à finir son ouvrage à la lumière de sa petite lampe, elle retrouvait dans sa tête ce mot-là, toujours, dont la seule consonance l'impressionnait comme une chose triste. Le nom des personnes et de ceux des navires ont une physionomie pour eux-mêmes, presque un sens. Et ce Léopoldine, mot nouveau, inusité, la poursuivait avec une persistance qui n'était pas naturelle, devenait une sorte d'obsession sinistre. Non, elle s'était attendue à voir Yann repartir encore sur la Marie, qu'elle avait visitée jadis, qu'elle connaissait et dont la Vierge avait protégé pendant de longues années les dangereux voyages. Et voici que ce changement, cette Léopoldine, augmentait son angoisse. Mais bientôt, elle en vint à se dire que pourtant cela ne la regardait plus, que rien de ce qui le concernait, lui, ne devait plus la toucher, jamais. Et en effet, qu'est-ce que ça pouvait lui faire, qu'il fût ici ou ailleurs, sur un navire ou sur un autre, parti ou de retour? Se sentirait-elle plus malheureuse, ou moins, quand il serait en Islande, lorsque l'été serait revenu, tiède, sur les chaumières désertées, sur les femmes solitaires et inquiètes, ou bien quand un nouvel automne commencerait encore, amenant une fois de plus les pêcheurs? Tout cela, pour elle, était indifférent, semblable, également sans joie et sans espoir. Il n'y avait plus aucun lien entre deux, aucun motif de rapprochement, puisque même il oubliait le pauvre Sylvestre. Donc il fallait bien comprendre que c'en était fait pour toujours de ce seul rêve, de ce seul désir de sa vie. Elle devait se détacher de Yann, de toutes les choses qui avaient trait à son existence. Même de ce nom d'Islande qui vibrait encore avec un charme si douloureux à cause de lui. Chasser absolument ses pensées, tout balayer, se dire que c'était fini. Fini à jamais.
Vous écoutez Le Feuilleton d'Antoine, avec aujourd'hui Pêcheur d'Islande, roman de Pierre Loti.
Avec douceur, elle regarda cette pauvre vieille femme endormie, qui avait encore besoin d'elle, mais qui ne tardera pas à mourir. Alors, à quoi bon vivre, à quoi bon travailler et pourquoi faire? Le vent d'ouest s'était levé dehors. Les gouttières du toit avaient recommencé sur ce grand gémissement lointain, leur bruit tranquille et léger de grelots de poupées. Et ses larmes aussi se mirent à couler. Larmes d'orpheline et d'abandonnée, passant sur ses lèvres avec un petit goût amer, descendant silencieusement sur son ouvrage comme ces pluies d'été qu'aucune brise n'amène et qui tombent tout à coup, pressées et pesantes de nuages trop remplis. Alors, n'y voyant plus, se sentant brisée, prise de vertige devant le vide de sa vie, elle replia le corsage ample de cette dame tressoleur et essaya de se coucher. Dans son beau lit de demoiselle, elle frissonna en s'étendant. Elle devenait chaque jour plus humide et plus froid, ainsi que toutes les choses de cette chaumière. Cependant, comme elle était très jeune, tout en continuant de pleurer, elle finit par se réchauffer et s'endormir. Des semaines sombres avaient passé encore, et on était déjà au premier jour de février par un assez beau temps doux. Yann sortait de chez l'armateur, venant de toucher sa part de pêche du dernier été, 1500 francs, qu'il emportait pour les remettre à sa mère, suivant la coutume de la famille. L'année avait été bonne et il s'en retournait content. Près de Ploubalanec, il vit un rassemblement au bord de la route, une vieille qui gesticulait avec son bâton et autour d'elle des gamins ameutés qui riaient. La grand-mère Moane, la bonne grand-mère que Sylvestre adorait, toute traînée et déchirée, devenue maintenant une de ces vieilles pauvresses imbéciles qui font des attroupements sur les chemins. Cela lui causa une peine affreuse. Ces gamins de Ploubalanec lui avaient tué son chat et elle les menaçait de son bâton, très en colère et en désespoir. « Ah, s'il avait été ici, lui, mon pauvre garçon, vous n'auriez pas osé, bien sûr, mes vilains drôles !» Elle était tombée, paraît-il, en courant après eux pour les battre. Sa coiffe était de côté, sa robe pleine de boue, et il disait encore qu'elle était grise, comme cela arrive bien en Bretagne à quelques pauvres vieux qui en ont eu des malheurs. Yann savait, lui, que ce n'était pas vrai, et qu'elle était une vieille respectable ne buvant jamais que de l'eau. « Vous n'avez pas honte ?» dit-il au gamin, très en colère, lui aussi, avec sa voix et son ton qui imposaient. Et en un clin d'œil, tous les petits se sauvèrent, penauds et confus devant le grand Gaos. Gaude, qui justement revenait de Paimpol, rapportant de l'ouvrage pour la veillée, ayant aperçu cela de loin, reconnut sa grand-mère dans ce groupe. Effrayée, elle arriva en courant pour savoir ce qui c'était et ce qu'elle avait vu, ce qu'on avait pu lui faire, et compris, voyant leur chat, qu'on avait tué. Elle leva ses yeux francs vers Yann, qui ne détourna pas les siens. Il ne songeait plus à fuir cette fois. Devenus seulement très roses tous les deux, lui aussi vite qu'elle, d'une même montée de sang à leurs joues, ils se regardaient avec un peu d'effarement de se trouver si près, mais sans haine, avec presque de la douceur, réunis qu'ils étaient dans une commune pensée de pitié et de protection. Il y avait longtemps que les enfants de l'école lui en voulaient à ce pauvre matou défunt, parce qu'il avait la figure noire, un air de diable, mais c'était un très bon chat, et quand on le regardait de près, on lui trouvait au contraire la mine tranquille et câline. Il avait été tué avec des cailloux, et son œil pendait. La pauvre vieille, en marmottant toujours des menaces, s'en allait toute émue, toute branlante, en portant par la queue comme un lapin ce chat mort. « Oh, mon pauvre garçon, Mon pauvre garçon, s'il était encore de ce monde, on n'aurait pas osé me faire ça, non, bien sûr. » Il lui était sorti des espèces de larmes qui coulaient dans ses rides et ses mains à grosses veines bleues tremblaient. Gaude l'avait recoiffé au milieu, tâchait de la consoler avec des paroles douces de petite fille, et Yann s'indignait. Si c'était possible que des enfants fussent si méchants, faire une chose pareille à une pauvre vieille femme. Les larmes lui en venaient presque, à lui aussi. Non point pour ce matou, il va sans dire. Les jeunes hommes rudes comme lui, s'il aimait bien jouer avec les bêtes, n'ont guère de sensiblerie pour elle. Mais son cœur se fendait à marcher là, derrière cette grand-mère, en enfance, emportant son pauvre chat par la queue. Il pensait à Sylvestre, qu'il avait tant aimé, au chagrin horrible qu'il aurait eu si on lui avait prédit qu'elle finirait ainsi en dérision et en misère. Et Gaude s'excusait comme étant chargé de sa tenue. « Mais c'est qu'elle sera tombée pour être si sale, disait-elle tout bas. Sa robe n'est plus bien neuve, c'est vrai, car nous ne sommes pas riches, monsieur Yann. Mais je l'avais encore raccommodée hier, et ce matin, quand je suis partie, je suis sûre qu'elle était propre et en ordre. » Il la regarda alors longuement, beaucoup plus touché peut-être par cette petite explication toute simple qu'il ne l'eût été par d'habiles phrases, des reproches et des pleurs. Ils continuaient de marcher, l'un près de l'autre, se rapprochant de la chaumière des Moines. Pour Jolie, elle avait toujours été comme personne, il le savait fort bien, mais il lui paraît qu'elle était encore davantage depuis sa pauvreté et son deuil. Son air était devenu plus sérieux, ses yeux gris de lin avaient l'expression plus réservée et semblaient malgré cela vous pénétrer plus en avant jusqu'au fond de l'âme. Sa taille aussi avait achevé de se former, 23 ans bientôt, elle était dans tout son épanouissement de beauté. Et puis elle avait à présent la tenue d'une fille de pêcheur, sa robe noire, sans ornement, et une coiffe toute unie, un air de demoiselle. On ne savait plus bien d'où il lui venait. C'était quelque chose de caché en elle-même et d'involontaire dont on ne pouvait plus lui faire reproche. Peut-être seulement son corsage, un peu plus ajusté que celui des autres, par habitude. D'autres fois, dessinant mieux sa poitrine ronde et le haut de ses bras. Mais non, non, cela résidait plutôt dans sa voix tranquille et dans son regard.
C'était le feuilleton d'Antoine qui nous proposait aujourd'hui Pêcheur d'Islande, roman de Pierre Loti.